juste bonsoir à tous, bonsoir Yves Guénin, merci d'être présent chez Mola à Bordeaux. Juste un petit préliminaire avant d'entamer la conversation avec Yves Guénin. Donc vous l'avez peut-être entendu puisque les micros sont sensibles, Yves Guénin a un train à 19h50, donc il a un taxi qui l'attend en bas à 19h15. Et donc, pour connaître un peu Yves Guénin, je peux vous dire que 19h15 chez Yves Guénin, c'est 19h15. Donc, on va essayer de respecter les horaires.
Il faut le respecter.
Voilà, il faut respecter les horaires. Donc, ce que je vous propose, je vais lancer la conversation avec Yves Guénin pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, si vous voulez bien, je donnerai la parole dans le public à ceux qui veulent poser des questions à notre invité. Et à 18h45... nous interromprons pour que Yves Guénin puisse dédicacer des livres. Voilà. Est-ce que ça vous convient? Oui. Parfait. Très bien. Alors, on va commencer par l'exercice obligatoire. Enfin, je ne vais pas, Yves Guénin, me risquer à résumer votre vie. Ce serait trop long. Je vais quand même rappeler quelques étapes importantes de votre vie qui, d'abord, évidemment, font que vous êtes ce qu'on appelle un gaulliste historique. C'est qu'à l'âge de 18 ans, donc le breton que vous êtes... rejoint le général de Gaulle à Londres, et donc évidemment c'est le début d'une histoire de, j'allais dire, d'amour et d'admiration pour le général qui dure encore. Ensuite vous avez participé à la rédaction de la Constitution de la Ve République aux côtés de Michel Debray, et à partir de 1962 vous êtes conseiller d'État, vous décidez de vous engager dans la vie politique. Donc vous êtes élu député de la Dordogne, vous le serez jusqu'en 1988, maire de Périgueux pendant 26 ans, de 1971 à 1997, si les dates sont bonnes, c'est ça. Vous avez été plusieurs fois ministre, évidemment, du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing.
Non, pas de Valéry Giscard d'Estaing. Oh non, quand même.
Non, c'est vrai, vous n'avez pas fait partie, pardon, excusez-moi. C'est vrai, vous avez laissé votre place de ministre de l'Industrie à Michel Dornano. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. C'était pour voir si vous suiviez. Ensuite, vous avez été également sénateur à partir de 1989 jusqu'en 1997. Vice-président du Sénat, et c'est en 1997 que vous abandonnez la vie politique, si j'ose dire, active, pour entrer au Conseil constitutionnel, dont vous devenez le président en 1999 après l'affaire Roland Dumas. Et puis là, vous devenez donc président, et j'allais dire, vous enchaînez une impressionnante collection de présidences, l'Institut du Monde Arabe, la Fondation de la France Libre, l'Institut Charles de Gaulle. Et pour finir, c'est comme une sorte de retour à la vie politique, vous avez accepté la présidence que vous a confiée Nicolas Sarkozy de la commission de contrôle du découpage électoral.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, voilà, en résumé, en quelques secondes, une vie politique riche et bien remplie. La première question que je souhaitais vous poser, évidemment, c'est par rapport au titre du livre. Est-ce que c'est le fait d'être breton comme Chateaubriand qui vous a donné l'envie de l'appeler Mémoire d'Outre-Gaulle ?
Non, enfin, naturellement, j'ai pensé Mémoire d'Outre-Tombe, mais je ne présente pas du tout Chateaubriand. C'est-à-dire que j'ai donc écrit... sur la première partie de ma vie, enfin, de 1940 à 1969, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Le temps des certitudes », où je racontais mon ralliement à De Gaulle en juin 1940, où je racontais toute la guerre, et ensuite ce que j'avais fait essentiellement depuis le retour du général de Gaulle, c'est-à-dire, comme vous avez dit, participer à la rédaction de la Constitution. Ensuite, j'étais au commissaire en Côte d'Ivoire, au moment du passage à l'indépendance, enfin, c'était quelque chose de très intéressant. Puis je suis entré dans la vie politique et j'ai donc été ministre du général de Gaulle de 1967 à 1969. Et quand Mitterrand a été élu en 1981, Elle trouvait que c'était une page qui se tournait et qu'il fallait que je raconte tout ce que j'avais connu sous le général de Gaulle. Et je l'ai appelé « Le temps des certitudes ». Oui, c'est vrai, je suis gaulliste. Bon. Et seulement la dernière phrase était « Voici que se referment les portes de la gloire ». Nous entrons désormais dans les temps ordinaires. Je me suis dit, je ne vais pas écrire un livre appelé « Les temps ordinaires ». Et puis, alors il fallait trouver un autre titre, mais d'abord demander si j'allais écrire la suite. Alors, on me l'a demandé de divers côtés, notamment ma femme qui souhaitait, vous savez, les femmes, ça les agace quand leur mari ne travaille pas suffisamment. Donc, je m'y suis mis.
De ce côté-là.
Oui, elle était gâtée, oui. Donc, je m'y suis mis et je racontais ce qui s'est passé depuis 1969 jusqu'en 2007. Disons 2007, je dis quelques mots après, mais je m'arrête en 2007. Et elle me dit, quel titre lui donner. Alors, comme évidemment, pendant tout le temps où De Gaulle n'était plus là, j'ai participé, j'étais un observateur actif, et j'ai été engagé dans un certain nombre de choses, mais il est vrai qu'au fond de moi-même, j'ai toujours pensé, je ne me disais pas que ce que ferait De Gaulle dans ce cas-là, on ne peut pas savoir, mais j'ai toujours pensé à ce que De Gaulle m'avait appris et nous avait apporté. Donc je me suis dit, il faut que ce que je vais raconter soit sous la lumière encore du général De Gaulle. C'est pourquoi j'ai appelé ça « Mémoire d'outre-Gaulle ». Pour que tout le monde sache bien que c'était « Mémoire d'outre-Gaulle », le premier chapitre de mon livre, les 20 premières pages, sont un résumé ou une synthèse de ce qu'a fait le général de Gaulle pour la France, d'abord pendant le temps de la guerre où, moi, je trouve que c'est miraculeux, n'est-ce pas, quand vous êtes général de brigade à titre temporaire, pas très connu, enfin peu connu en dehors du milieu militaire, et que vous dites « ralliez-vous à moi, nous allons continuer la guerre et on va la gagner », qu'il est tout seul, que les premiers alliés dont je fus étaient environ 1500, la première fois que le général de Gaulle est venu vers nous, le 6 juillet 1940 à l'Olympia Hall à Londres, et que 4 ans après, il descend les Champs-Élysées, qui ont été libérés par la résistance et des unités de la France libre, c'est quand même extraordinaire. Et qu'à la fin de la guerre, alors qu'en 1940, nous étions humiliés, écrasés, humiliés, à la fin de la guerre, nous sommes co-signataires de la capitulation de l'Allemagne. Je rappelle toujours le maréchal Keitel entrant pour signer la capitulation, c'était pas un armistice, il voit un généraux anglais, un généraux américain, il aperçoit un uniforme français, c'est celui du général Delattre, et il dit « Quoi, les Français aussi ?» Oui, les Français aussi, nous avons une zone d'occupation en Allemagne, comme les autres, et quand l'ONU est créée, nous sommes reconnus comme une des 5 premières puissances du monde. Alors, je dis, en général, voilà. Alors,
justement, Yigena, vous avez prononcé le mot « les temps ordinaires », est-ce que ça veut dire que vous, depuis le départ du général de Gaulle, donc en 1969, après le référendum, est-ce que vous trouvez que la vie politique française est devenue ordinaire, enfin manque de quelque chose qu'il y avait du temps du général ?
Bon, il manque le général,
oui.
Il manque quelque chose. Je ne veux pas dire que tout ce soit... que tout soit parti, que tout soit effondré, Dieu merci, et mais on peut mettre au crédit général, il y a encore un certain nombre de choses qui demeurent, n'est-ce pas ? Notamment, on m'a posé la question l'autre jour, en ce qui concerne Sarkozy, enfin Nicolas Sarkozy, beaucoup de respect pour lui, je ne veux pas entrer dans les débats là-dessus, mais je dis, le général de Gaulle a fait ensuite... Bon, j'ai parlé de la période de la guerre. Ensuite, quand il est revenu au pouvoir de 58 à 69, il a remis la France vraiment tout à fait en haut en rejetant la vassalité américaine. Et les deux choses sont liées en quelque sorte. Il a fait une constitution telle, et je la connais bien, telle que nous n'avons pas eu de crise ministérielle depuis 1959. S'il y en a eu une en 62, mais ça a été immédiatement liquidé. Donc, je crois que aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, je ne veux pas m'étendre là-dessus, la France a encore une position parmi les nations. Je citais à la télé avant-hier, je crois, le fait que quand il y a eu cette tension, il y a un an et demi, entre la Russie et la Géorgie, c'est le président de la République française qui s'est précipité à Moscou, qui a discuté, qui s'est précipité à Tbilissi et qui a contribué largement à régler le problème.
Certes, c'est vrai, vous avez raison, mais il l'a fait en tant que président en exercice de l'Union européenne.
Ouais.
Et j'allais y venir, vous le rappelez dans votre livre, vous êtes assez critique envers l'Europe, envers la construction européenne, et vous dites notamment que le général de Gaulle, lui, l'Europe, il n'y a jamais cru.
Non, moi non plus.
Est-ce que les faits vous donnent... Vous avez l'impression que ce qui se passe, par exemple, actuellement, la crise économique, ce qui se passe en Grèce, donne raison au général et à vous, donc, par conséquent.
Oui, enfin, une raison au général, monsieur, oui, il s'est passé des années depuis cela. Bon, il y a un problème. Enfin, je ne voudrais pas entrer dans un débat actuel, mais enfin...
Non, ouais.
Enfin, je réponds à votre question, bien entendu. Bon, qu'est-ce que vous voulez... L'Europe, qu'est-ce que c'était que l'Europe de Gaulle ? C'était d'abord, ça existait quand il est arrivé, c'était fait. Et il y avait trois puissances, il y avait la France, l'Allemagne, l'Italie, qui ont des liens communs, qui se comprennent, etc. Les trois petits à côté, Belgique, Luxembourg, Hollande, pourquoi pas. Et c'était des gens qui vivaient à peu près de la même façon, qui avaient à peu près de la même façon de voir les choses. Et le général de Gaulle simplement considérait que c'est par conversation... Enfin, dans un cadre, bien entendu, qu'on pouvait arriver à faire des choses en commun, que ça pouvait pas être une fédération, pouvait pas être une confédération, mais, enfin, on voit bien que le général de Gaulle considérait que c'était l'Allemagne et la France qui devaient mener cela. Bon, alors, les choses ont beaucoup évolué, mais quand on en arrive maintenant à 27 États, aussi dissemblables que c'est pas... Moi, je suis pas du tout séduit. Hein. Vous avez, m'excuse, Chypre, c'est-à-dire la moitié de Chypre, a un représentant à Bruxelles au même titre que la France, ça me paraît pas très raisonnable. Donc, je suis extraordinairement réservé, mais je m'excuse, c'est pas le sujet. Quoi.
Quand même
c'est pas
de...
le sujet. Mais je suis extrêmement réservé sur l'Europe.
D'accord. Est-ce que, selon vous, vous l'avez dit, l'héritage du général de Gaulle se manifeste encore ? Donc la Constitution, bien sûr, est toujours là, même si elle a été un peu révisée.
Ouais.
Je suppose d'ailleurs que les révisions de la Constitution, par exemple le quinquennat, vous n'avez pas dû approuver.
Alors, il n'y a pas que le quinquennat. Vous savez que même Pompidou avait envisagé le quinquennat. Il l'avait fait voter par les deux assemblées, mais comme la majorité était très étroite, il n'a pas voulu réunir le Congrès à Versailles, lui. Alors, ce que disait Pompidou, il disait 14 ans, c'est-à-dire deux mandats, 14 ans, c'est beaucoup. Et c'est vrai que rester 14 ans à la tête de la France, c'est beaucoup. Il dit, 2 fois 5 ans, c'est bien, pas plus, mais, il faut pas le préciser que ça ne peut durer, ça sera un usage, je sais pas, il faut pas le préciser, parce que sinon, avant même la fin du premier quinquennat, disait Pompidou, les gens se mettront sur les rangs pour la fin du second. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors, naturellement, j'étais très attaché à la Constitution telle que nous l'avons rédigée sous Michel Debré et avec le général de Gaulle, bien entendu. J'étais très attaché. Il y a des choses qui changent dans la vie, c'est évident. Je considère qu'on a un peu trop changé les choses dans la Constitution. Mais ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas eu la moindre crise ministériel depuis que le général de Gaulle est parti. Et même depuis que d'autres réformes sont intervenues. Par exemple, Chirac a fait, à la demande de Philippe Séguin, il a fait, alors que nous, dans la Constitution, il y avait deux sessions de 3 mois chacune, donc 6 mois dans toute l'année pour le Parlement. C'est Philippe Séguin qui a fait changer la Constitution sur ce point par Chirac, avec une session de 9 mois, considérant que il n'y aurait pas de séance de nuit de plus en plus, considérant que, enfin, etc. Et en vérité, qu'il n'y aurait pas de session extraordinaire, or il y en a toujours des sessions extraordinaires. Bon, alors écoutez, je ne veux pas être un vieux schnock, bon, je ne vais pas dire à la Constitution pourquoi on y a touché, bon, mais n'allons pas plus loin, c'est la limite.
D'accord. De tous les mandats que vous avez exercés, donc je l'ai rappelé, vous en avez exercé beaucoup, j'ai oublié aussi le conseiller général.
Ah oui, le conseiller général, oui.
Quel est le mandat qui vous aura le plus plu, si j'ose employer cette répétition? Est-ce que, comme on dit, c'est maire chez un élu qui est... Vous parlez beaucoup de la mairie de Périgueux, oui. Et disons la que c'est pour vous, maire, vous reconnaissez que quand vous avez dû abandonner votre mandat, que ça a été pour vous un déchirement, ce que vous ne dites pas pour les autres mandats d'une certaine façon.
Oui, c'est vrai, ça a été un déchirement. Enfin, je l'ai fait, je vais vous dire pourquoi. Je n'ai pas hésité quand on m'a proposé d'entrer à début 97 au Conseil constitutionnel. C'est que je me suis dit... je m'étais déjà dit, je ne vais pas me représenter à 78 ans pour un nouveau 9 ans nouveau au Sénat, et je ne vais donc pas me représenter non plus indéfiniment à la mairie. Donc j'avais décidé en moi-même que le 19 juin 2000, je réunirai le conseil municipal en disant, voilà, 40 ans que je suis entré dans la vie 2000, 60 ans que je suis entré dans la vie active, je me retire. Donc, je n'ai pas eu d'hésitation quand on m'a proposé le Conseil constitutionnel. Mais c'est vrai, j'étais pendant 26 ans maire de Périgueux. La première fois que je me suis présenté, d'ailleurs, je n'ai pas été élu. La deuxième fois, il me manquait 50 voix au premier tour. Bon, ça a passé. Et ensuite, j'ai été réélu 4 fois ou 5 fois, je ne me rappelle plus, chaque fois au premier tour, avec la majorité absolue, dans tous les bureaux de vote, y compris dans les quartiers les plus populaires. Ça fait quelque chose, vous savez. Et quand la mairie était, je suis pas que ça va changer, mais je ne me prononce pas là-dessus, la mairie est en plein cœur de la ville de Périgueux, et le marché est au pied. Et je dois dire que, t'entends mon bureau, je me dis, oh là là, je descendais, et je me promenais parmi les étalages, et les gens tellement gentils m'interpellaient, me serraient la main. Oui, j'ai gardé un souvenir, j'ai gardé un très grand souvenir. Je vais dire, mais vous ne l'écrirez nulle part, que je crois que les Périgourdais aussi ont gardé un certain souvenir, parce que je me promène encore dans les rues de Périgueux. Ils sont très, 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 très gentils avec moi. Et puis, diriger une ville, alors mandat de député, mandat de sénateur, c'est extrêmement intéressant, je sais que j'ai parcouru la Dordogne dans tous les sens, mais diriger une ville, c'est vraiment, vous y mettez tout votre cœur, quoi, parce que j'y étais pas tout le temps non plus, parce qu'il y avait, j'ai eu souvent 3 mandats, mais je m'en occupais de très très près, et par exemple... J'ai fait repaver, dès le début, repaver toutes les rues du vieux Périgueux. J'ai fait remettre en état les maisons. C'était la loi Malraux, d'ailleurs, c'était possible. Le fait. Il y a les hôtels nobles de Périgueux qui étaient occupés, je ne sais pas comment, je les ai fait refaire. Et j'en ai fait des HLM.
C'est-à-dire que là, vous avez vraiment l'impression, quand vous êtes maire, vous voyez la ville changer, et vous vous dites, finalement, il y a une certaine satisfaction personnelle. Faut pas se le cacher, de dire...
On est très content de voir les gens, et puis les gens qui vous sourient, et quand vous entrez dans un bistrot, tout le monde dit, ah tiens, voilà le maire, enfin... Oui, c'est très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Écoutez, j'aurais pas fait 35 ans de carrière politique si je n'avais pas aimé les gens.
Oui. Oui, voilà. D'ailleurs, vous avez dans
enfin, il y en a qui m'ont engueulé, quand même, mais enfin, en gros, j'ai beaucoup aimé les gens Ils se tournent vers vous, ils attendent que vous fassiez quelque chose.
Dans le livre des belles pages sur le métier d'élu, qui est un engagement de tous les instants. Et alors, justement, vous parliez d'avoir plusieurs mandats, juste une question annexe. J'ai l'impression que vous, la limitation des mandats, vous n'êtes pas trop d'accord.
Je ne suis pas du tout d'accord.
J'ai eu trois mandats.
J'ai eu trois mandats. Bon, je dirais même presque quatre mandats, parce que quand j'étais ministre,
vous étiez député. Vous étiez maire et conseiller général.
Je m'occupais quand même de l'ensemble de ma circonscription. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Alors, je sais bien que c'est propre à la France. Ça n'existe pas dans les autres pays. Mais moi, je trouvais ça très bien. Ça ne me dérangeait pas du tout d'être député, maire et conseiller général. Il faut dire que il y a 20 ans ou 30 ans, conseiller général, c'était pas écrasant. Je le raconte d'ailleurs dans mon livre. Maintenant, ils ont des tas de responsabilités. On a décentralisé. Enfin, il y a la région, il y a le département. Je raconte que quand j'ai été élu conseiller général de Périgueux, le conseil général, sous la présidence de Robert Lacoste d'ailleurs, se réunissait deux fois 15 jours par an. Une fois, on était invité à déjeuner par le préfet, et alors on levait la séance bien avant midi pour avoir le temps de se préparer, et on la reprenait pas l'après-midi parce que ça aurait été faire offense au préfet, comme si on n'avait pas assez mangé chez lui. Et la fois suivante, à la session suivante, c'était nous qui invitions le préfet, et chacun payait. Maintenant, tout ça est devenu bureaucratique. Par exemple, Lacoste avait deux bureaux qui lui étaient affectés, deux bureaux dans les services de la préfecture. Il avait un chef de cabinet, c'est très sympathique, et une secrétaire, c'est tout. Maintenant, on est un peu écrasé par le poids de l'administration, donc c'est plus difficile d'être à la fois député, conseiller général, conseiller... Comment on s'appelle ça ? Régional.
Il y aura bientôt conseiller territorial.
Ça fusionne les deux.
Oui, ça absolument.
Ça fusionne les deux. Et peut-être que je serai appelé d'ailleurs à faire, comme président de la commission des redécoupages électoraux, à redécouper les départements.
Voilà. Alors, au Conseil constitutionnel, quand vous y arrivez, vous avez assez rapidement, si j'ose dire, géré, entre guillemets, l'affaire Dumas. Vous racontez comment ça se passe. C'est sans doute pas l'épisode le plus agréable de votre séjour au Conseil constitutionnel. Ce qui est plus drôle, puisque le livre est quand même plein d'anecdotes assez savoureuses, c'est aussi la façon parfois dont vous accueillez les notamment Monique Pelletier avec des vers. Vous faites poète parfois pour accueillir vos futurs.
Oui, j'ai un petit faible pour écrire. J'aime assez écrire. Alors ma poésie, je suis très tenté par la poésie, mais je n'ai jamais été à la hauteur de faire ça. Alors, je peux écrire des vers, il y en a dans le livre, là, des alexandrins, moi je dis, sont des vers de Mirliton. J'ai quelquefois essayé d'écrire des poèmes plus beaux dans le temps des certitudes. J'en ai reproduit un lorsque, avec la division Leclerc, nous sommes arrivés en Allemagne, ça m'arrivait en Bavière. On avait vu tomber des copains, on avait tué des Allemands, bien entendu, mais enfin, c'était la guerre. Et là, nous découvrons le camp de Dachau. Et c'est-à-dire, j'étais tellement ému que j'ai fait un poème qui commence par « Donnez-moi une vraie guerre toute fraîche, avec des hommes à tuer plein mes cartouchières, des hommes qui tombent par graves murs, émaillant les prés, comblant les fossés, ébranlant les routes, mais pas des bourreaux et pas des victimes. » Voilà. Bon. Alors ça, j'aime bien faire ça, mais sans plus. Alors, en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, je suis arrivé, c'était Dumas. Dumas m'avait battu aux élections législatives en Dordogne quelques années plus tôt.
Oui, parce que vous étiez tous les deux élus du Périgord.
Oui, du Périgord. Cela dit, c'est des choses qui arrivent. Nous sommes très bien entendus. Et Dumas s'est trouvé avoir un petit problème compliqué dans lequel je n'entre pas, et être poursuivi en justice, ce qui est tellement difficile pour le président du Conseil constitutionnel. doit dire que la justice n'a pas été très convenable avec lui. Je l'ai dit tout de suite d'ailleurs, c'était Eva Joly, j'ai rien contre elle. Mais lorsque elle a commencé, elle était juge d'instruction dans cette affaire, qu'elle a été faire une perquisition au domicile de Dumas, et que probablement elle l'avait dit, puisque quand ils sont sortis, les photographes étaient là, et qu'on voyait le président du Conseil constitutionnel entre deux inspecteurs de police, je trouvais que c'était un peu exagéré. Alors, les choses se sont un peu dégradées pour lui, puisque il a été traduit en correctionnel, et à ce moment-là, il a démissionné. Mmh. Et Chirac me l'avait dit dès le début, il m'avait dit que c'est moi qui lui succéderais. Donc Chirac m'a demandé de lui succéder, et je suis devenu président par intérim en 99, puisque j'étais le plus ancien, et en 2000, j'ai été nommé président du Conseil constitutionnel. Alors oui, je raconte, il y a un chapitre là, il y a deux chapitres. Le Conseil constitutionnel, où je dis comment on travaille le Conseil constitutionnel, très honorable à mon avis, je ne parle pas du chapitre, je parle du Conseil constitutionnel. Et dans le deuxième, j'ai mis « Quand le Conseil constitutionnel », ça s'intitule « Quand le Conseil constitutionnel s'amuse ». Parce qu'il y avait une telle tension avec toute cette histoire qui s'était passée autour de Dumas, j'ai pensé qu'il fallait détendre un peu l'atmosphère, ma femme m'aidant beaucoup, il n'y avait pas de moyens considérables au Conseil constitutionnel, mais enfin, je faisais une fois par an ce qu'on appelle dans l'armée un dîner de corps, c'est-à-dire tous les membres, leurs épouses, et puis nos collaborateurs proches. Et voilà, et je faisais le résumé.
Et que vous les invitiez chez vous en Dordogne.
Je les invitais chez moi en Dordogne aussi, mes collègues, oui. Et je leur faisais, au dîner de corps, je leur faisais un résumé de ce que nous avions fait. Alors pour pas les ennuyer, je faisais ça de façon humoristique et en vers. Pour Monique Pelletier, par exemple, je disais, nous voilà remis à 9. Parce qu'on était 8, voilà, on devenait 9, mais avec Monique Pelletier, on était vraiment remis à 9.
Donc c'est très littéraire, la fonction de président de Conseil constitutionnel, puisque maintenant Jean-Louis Debray écrit des romans policiers. Donc vous avez écrit une pièce de théâtre, vous écrivez des poèmes.
Oui, alors j'ai écrit une pièce de théâtre, Phèdre 2000, parce que je suis un admirateur de Racine. Enfin, il y a beaucoup d'admirateurs de Racine. Et je me suis dit, il faudrait que j'écrive une pièce de théâtre. Alors j'ai écrit Phèdre 2000. Bon. Tout le monde peut écrire une pièce de théâtre, mais on me dit, mais tu voudrais bien la faire jouer.
Tout le monde ne peut pas la faire jouer.
Oui, alors on m'a dit, ça, vous n'y arriverez pas. Si on n'est pas du métier, on ne peut pas faire jouer sa pièce. Et puis, il y a eu un concours de circonstances. La mairie de Paris, sans que je vraiment demandé les choses, a dit, bon, ça peut jouer au théâtre Mouffetard. Et on m'a recommandé, moi je ne connaissais personne, la mairie de Paris m'a recommandé un metteur en scène, Philippe Rondest, qui avait été sociétaire de la Comédie Française, et donc qui a mis en scène la pièce. Et j'étais très content. Je n'ai pas recommencé, parce que c'était l'aventure. Voilà. Et la Phèdre était très jolie.
Alors, plus sérieusement...
Je suis sérieux. Hein.
Non, mais je sais, mais une question plus sérieuse par... je m'adresse, disons, à l'ancien président de l'Institut du Monde Arabe. Une question d'actualité, un peu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'actualité sur l'interdiction de porter la burqa en France? Est-ce que... je suppose que c'est une question que vous avez suivie. Je suis sûr que vous avez un avis sur la question.
Oui. Je crois que... on a déjà pris des mesures en ce qui concerne le voile dans les lieux publics, à l'école, dans les universités, etc. Je crois qu'il ne faut pas que les gens qui souhaitent vivre dans notre pays se distinguent de façon trop systématique et trop agressive en réalité des habitudes. Quelqu'un me disait. On parle beaucoup d'identité nationale, je ne veux pas en parler parce que c'est un sujet trop compliqué, je ne suis pas à la hauteur pour en parler. Mais quelqu'un disait, au fond, qu'est-ce que c'est qu'une nation? Eh bien, la réponse serait, Il est, pour moi, je l'ai faite mienne. Eh bien, on est dans une nation, et on appartient à une nation quand, où qu'on aille dans ce pays, quelle que soit la province, quel que soit le milieu social où on aille, quel que soit le milieu politique qu'on rencontre, on se sent chez soi. Eh bien, je dois dire que si j'entre dans une maison et que je vois des femmes voilées, je ne me sens pas chez moi. Et je crois que, je vous le dis, moi, si j'étais député, je voterais pour l'interdiction de la burqa. Alors, je ne vais pas faire de critique sur la façon dont les choses se passent, mais quand on a un sujet compliqué comme ça, il faut pas le compliquer davantage. Alors, il est certain que le mari de cette personne ne se conduit pas bien en France, que peut-être, il pratique la polygamie. Bon, comme il a répondu, nous, quand nous avons... Non, mais ça ne nous concerne pas, la maîtresse. On n'est pas poursuivi pour autant, mais il pratique la polygamie, quoi. Enfin, il est brutal avec ses femmes, et paraît-il, il se fait verser des allocations aux femmes, enfin, etc. Alors, on a mélangé ces deux problèmes, ce qui fait que ça a obscurci encore, et avec la burqa, c'était déjà obscur.
Voilà. Donc vous, vous êtes...
Oui, je suis pour la réglementation, enfin, l'interdiction de la burqa.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un avis qui émane de quelqu'un qu'on ne peut pas suspecter de la moindre inimitié envers les pays arabes, parce que bon, vous avez noué des liens très forts au moment de votre présidence à Lima.
Oui, non, mais j'avais toujours... j'ai commencé ma carrière au Maroc. J'ai autant au Chirac été premier ministre de Mitterrand. Il m'avait demandé, enfin, ils ont mis d'accord pour que je crée un cercle France-Pays arabe. Je me suis promené à travers tous les pays arabes. Et ensuite, j'étais très heureux de recevoir la présidence, d'assumer la présidence de l'Institut du monde arabe. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour les Arabes. J'ai beaucoup de respect pour la religion musulmane, comme je l'ai dit. Il y a trois religions qui sont très proches l'une de l'autre. Hein. C'est la juive, la chrétienne. Toutes se réfèrent à Abraham. Et moi, je me rappelle, quand j'étais au Maroc, en Liban, c'est encore plus net, ils considèrent que Jésus est le plus grand des prophètes avant Mahomet. Et ils disent « Sidna Issa ». Notre Seigneur Jésus. Et on me dit que, enfin, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais il y a quelques années encore, au Liban, quand une musulmane, puisque les religions sont mêlées là-bas, passait devant la statue de la Sainte Vierge, elle faisait une prière. Bon, alors maintenant, je le dis carrément, pas peser les mots, il y a un dérapage dans toute une partie de l'islam, ça, bon. On a connu des dérapages dans la chrétienté aussi,
oui,
et probablement chez les juifs aussi. Mais j'ai tout fait pour rapprocher, dans toute la mesure du possible, pour rapprocher les sentiments des trois. J'avais organisé justement une table ronde avec un rabbin, peut-être deux même, un imam et un évêque français et un pasteur protestant. Et je vais demander à Régis Debray d'être le modérateur dans cette affaire. J'ai fait... passer un film qui dénonçait les kamikazes. Bon, j'ai fait passer un film aussi qui dénonçait le meurtre d'une femme, l'assassinat d'une femme soupçonnée d'adultère. Il ne resterait plus une seule femme en France. Pardon, j'ai pas dit à ce moment-là. Moi, je crois, et vous avez... quand même beaucoup, beaucoup de musulmans qui sont modérés. Bah, le recteur de la mosquée de Paris, on ne peut rien lui reprocher, mais il est vrai qu'il y a un mouvement extrémiste, et que en plus, compte tenu des facilités de circulation maintenant, l'Europe connaît la présence de musulmans. C'est un problème, mais je suis de ceux qui considèrent qu'il faut... modéré, être très modéré pour essayer de le résoudre. Mais pas de burqa.
D'accord. Alors, autre question, et puis après je donnerai la parole à Salle, un peu sur la conclusion de votre livre. Vous tracez un peu des perspectives, notamment sur le plan international. On sent d'abord que vous êtes un grand admirateur de la Chine. Vous dites que c'est la superpuissance qui monte.
Ah, je suis pas un admirateur de la Chine. C'est la première civilisation, oui. La plus ancienne civilisation du monde. Hein, faut pas l'oublier. Mais je regarde la carte du monde maintenant par rapport à ce qu'elle était quand le général a disparu. Et je me rappelle, j'avais un ami dont je parle dedans, qui s'appelle Paul-Marie de Lagorce, enfin, qui s'appelait, puisqu'il est mort, hélas, et qui, en 1989 ou 90, a écrit un livre où il démontre, et c'était vrai, qu'il n'existait toujours qu'une superpuissance qui était les États-Unis. Bon, maintenant...
Et là, maintenant, vous dites que les États-Unis ont perdu un peu...
Les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance. Donc, la carte du monde est différente. Je n'en tire pas de conséquences. Mais enfin, lorsque vous avez 1 milliard 400 millions de Chinois et qui deviennent une puissance économique, industrielle et financière... j'ai fini mon livre là. J'arrête là parce que dans 20 ans peut-être j'écrirai la suite. Ça risque pas d'arriver.
D'accord. Voilà. Bon, alors donc on va arrêter, mais en remerciant Yves Guéna pour la vivacité de ses propos et de ses souvenirs. Et je vais vous laisser signer les livres.
Voilà, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci, ça me fait très plaisir.